Cacao Cast, épisode 284. Nous sommes le mardi 22 octobre 2024. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe?
Ah, ça va très bien. C'est l'été indien, Philippe.
C'est vrai, il fait plutôt chaud pour un fin octobre, hein, ici au Canada. D'habitude,
c'est un phénomène normal. Ça fait l'été c'est indien. Ça. C'est le chaud après un réchauffement après le premier gel au sol. Et on a eu le premier gel au sol la semaine dernière, si je me rappelle bien.
Ouais, mais à peine. Hein, ça a été très court. On est passé d'un beau septembre, un beau début d'octobre, un petit refroidissement rapide et hop, c'est redevenu chaud à nouveau. Donc ouais. Moi, j'ai pas vu la différence. Mais bon, on va pas s'en plaindre.
Moi, je l'ai vu, je peux plus me baigner dans la rivière, il fait trop froid là.
Ah, il fait trop froid, ok. Non, on en profite, c'est vrai qu'il fait beau là, on peut faire du vélo, t'as fait du kayak, c'est ça aujourd'hui?
Oui, moi je me prends en kayak depuis 2 ou 3 jours là, il fait très chaud, dans les agréables après-midi. Et particulièrement hier, l'eau était, il n'y avait pas de vent, hein. Alors ouais. L'eau était comme un miroir, c'était vraiment, vraiment agréable. Et c'était tellement agréable que je me suis installé à l'extérieur pour travailler aussi. Vous pouvez le voir sur mastodon.social.
Ah, ben ça, c'est cool. OK. Bon, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, une petite nouveauté côté Apple, une mini-nouveauté. Donc, l'iPad mini a été mis à jour. J'avoue que je l'ai à peine vu passer. Ça n'a pas vraiment fait les grands titres. Ça n'a pas fait les grands titres des journaux, là. Faut le dire. C'était juste une mise à jour sur le site web. Hein. Pas d'événement, quoi que ce soit. Je pense une petite mise à jour annuelle. Je ne sais pas quand est-ce qu'il avait été mis à jour la dernière fois, l'iPad mini. Il était
Ça fait 2 ans, oui, c'est ça.
C'était ça. Ça faisait un petit moment, là, que ça ne bougeait pas trop. Alors, vous attendez pas un redesign complet, là. C'est vraiment...
Non, puis l'ancien, c'était... Ça, c'était la grosse mise à jour parce que l'iPad mini avait le processeur M1, support pour le crayon, les côtés à plat pour pouvoir mettre le crayon magnétique, etc. Là, c'était tout dans l'ancienne version.
Voilà. Donc, dans la nouvelle version, ben, on retrouve tout ça. Peut-être des petites bricoles différentes au niveau des caméras, des choses comme ça. Peut-être, je suis pas sûr. Je sais qu'il y a une caméra large là pour faire du center stage.
Je pensais qu'elle était déjà là, mais
elle est peut-être déjà.
Je me suis trompé avec le iPad Air avec M1 aussi.
Ouais, là il commence à en avoir trop, donc j'avoue que je sais pas trop. Alors ce qui est un peu confus, je trouve, c'est d'avoir mis le A17 Pro. Alors on dirait qu'Apple veut pas le nommer vraiment ce A17 Pro qui devrait être peut-être le M3. Il y a ce fameux M3 qui n'existe pas vraiment. Hein. On est passé du M2 au M4 et puis le M3 n'existe pas. J'ai l'impression que, voilà, je ne sais pas pour quelle raison Apple n'a pas voulu l'appeler M quelque chose.
Mais c'est aussi le processeur du iPhone 17. Non,
le 15, oui.
iPhone 15.
15 Pro.
Celui d'année dernière. Là,
c'est ça.
Qui était le premier à pouvoir faire marcher Apple Intelligence.
C'est ça. Donc, c'est ce que j'ai ouais, dans mon 15 Pro. Donc, moi, j'ai comme un iPad mini, là. Ouais. Encore plus petit. Ben, donc, ça sera les mêmes performances. Donc, voilà. Le A17 Pro, donc, c'est une belle puce là-dedans. Comme tu dis, elle va supporter Apple Intelligence. Donc, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses avec votre iPad, générer des petites images, reformater votre texte en fonction du style que vous voulez, des choses comme ça, donc c'est intéressant. On verra ça plus en détail au mois de décembre quand Apple Intelligence va être livré. On l'attend toujours. Hein.
Oui, ben, mois de décembre, on verra bien, là. Ça se peut que ça ouais. soit repoussé. Moi, j'ai fait la mise à jour à iOS 18 sur le dernier WatchOS sur mes appareils à moi, mais comme c'est des vieux trucs, j'ai aucune caractéristique de Apple d'intelligence qui pourrait même commencer à se présenter. J'ai fait la mise à jour à Sequoia sur mon Mac, et à date, je vois pas de grosses différences, à part le fait que maintenant, je dois absolument rouler avec Xcode 16, car Xcode 15 ne fonctionne pas sur Sequoia. C'est la plus grosse différence. Mais pour mon Mac perso, ça me dérange pas tant que ça. Pour le reste, j'ai pas été très embêté par les différentes dialogues de demandes de trucs de vie privée, des choses comme ça. Il y en a eu quelques-uns, mais rien d'inhabituel. Là, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a des trucs qui se remettent à zéro. Puis il faut redonner des permissions. C'était pas trop mal à ce niveau-là. Puis les appareils que j'ai qui sont des appareils du travail, le seul qui pourrait être sur iOS 18 et avoir ce genre de truc-là, je dois le garder sur iOS 17 car c'est un iPad de test assez important qui doit rester sur iOS 17. Donc, j'ai pas pu vraiment voir ce que ça donne iOS 18 sur un appareil moderne.
Alors, je suis pas encore passé à iOS 18. Tu te plaignais pas sur Mastodon que tu perdais en performance là d'avoir peut-être passé à iOS 18
ou c'est sur c'était plus la montre en fait.
Ta montre
qui est sur WatchOS 11 là, mais j'imagine que ça va se calmer avec les quand la 18.1 va sortir, des choses comme ça là. C'est souvent le cas. Ça m'inquiète pas vraiment. Mais le fait est que je dois recharger ma montre un peu plus souvent, puis quelquefois même mon téléphone, mais ça c'est pas trop mal. J'ai un autre iPad du travail pour iOS 18, mais c'est un iPad mini, mais c'est la 5e génération. Donc c'est un appareil qui a presque 4 ans maintenant. Mais il supporte iOS 18. Donc c'est mon appareil iOS 18 pour tester.
Ouais. Ben, il faudrait que j'y passe aussi. Moi, j'ai pas encore fait. Je suis pas encore passé à Sequoia, seulement sur l'iMac de ma cuisine, qui est vraiment un iMac secondaire. Je suis en train de débattre avec moi-même de faire une installation que j'appelle propre, entre guillemets, donc de repartir de zéro, parce que voilà, ce qui se passe, c'est que je change d'emploi, donc j'utilisais mon Mac pour faire mes contrats précédents, mon travail précédent, et j'ai installé tout un tas de choses sur le Mac pour le travail, et voilà, j'ai pas envie de garder ça, désinstaller, ça marche pas toujours très bien, il y a des VPN là-dedans, des machines virtuelles, des choses comme ça. Ça laisse pas mal de choses derrière, hein. Même si tu supprimes l'application, y a toujours des petites bricoles à droite à gauche, donc ça m'arrive, tous les 3-4 ans, là, de repartir de zéro, faire une sauvegarde, et puis de reformater le Mac, et puis d'installer à partir de zéro, et de n'installer que les applications dont j'ai besoin. Parce que voilà, on a tendance à installer des choses, on en a besoin pour le travail, on en a besoin pour d'autres choses, on veut tester quelque chose, une nouvelle technologie, et on se retrouve avec tout un tas de trucs, là, qui restent là, et puis ils prennent la poussière, donc... Je sais pas, parce que ça, c'est du travail. Hein, t'as dû le faire déjà quand t'installes.
Non, moi je fais jamais ça.
Tu le fais jamais, ok. Moi je le fais et ça va me prendre 2 jours faciles de. Parce que c'est pas juste réinstaller les applications, c'est de remettre les fichiers dont on a besoin, ouais, etc. Donc voilà, je synchronise moi des fichiers à droite et à gauche. Là, j'ai du iCloud, j'ai.
Moi, tu vois, ma solution c'est d'acheter un ordinateur avec un plus gros disque dur à chaque fois.
Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Donc je sais pas. On verra. Alors, est-ce que je passe à Sequoia, puis je garde tout comme c'était, ou alors je prends du temps et puis je fais une installation propre. On verra. Mais voilà, le risque, j'ai toujours peur de perdre des choses, même si j'ai des sauvegardes. Des fois, c'est juste d'oublier qu'on avait certains fichiers là, et puis on oublie de les remettre, et puis ils vont rester dans une sauvegarde quelque part, et puis ils seront oubliés à jamais. Puis enfin bref. Donc bon, si je les oublie, puis que... C'est pas grave, c'est que c'était pas des fichiers si importants que ça, mais bon. Alors, je sais pas, on verra. Je vais commencer peut-être par iOS 18, ça c'est plus simple. Je vais pas réinstaller mon iPhone à partir de zéro, là. Ça je l'ai jamais fait, et je vais pas commencer, et le Mac, on verra. iPad mini, qui supporte le Apple Pencil Pro. Donc ça c'est pas mal, et puis il a l'air de supporter toutes les fonctionnalités du Apple Pencil Pro. Je me disais peut-être qu'il y aura certaines choses comme le... Alors, toi tu connais peut-être, je devrais peut-être me mettre en français.
La rotation, l'angle,
ouais,
des choses comme ça. Là.
Ouais, et puis d'être au-dessus de l'écran, et puis ça te détecte quand même...
Oui, le survol.
Le survol, parce que c'est pas uniquement l'Apple Pencil hein, qui fait ça, il faut que l'écran soit aussi...
Oui.
Soit de la partie, et puis... Et la bonne technologie pour que ça marche. Hein. Vous n'allez pas utiliser un Apple Pencil Pro sur l'iPad de base et puis avoir les mêmes fonctionnalités. Ça marche peut-être même pas du tout, je crois, avec...
Moi, je suis rendu... À mon âge, je suis rendu que l'iPad mini est peut-être un petit peu trop petit pour mes
yeux. Déjà, hein. Ouais, ouais. Non, mais... C'est sûr que... Qui l'utilise, je suis pas sûr. Il y a un cas d'utilisation pour l'iPad mini, mais l'iPad Air est tellement bien, je trouve, que... pourquoi se limiter avec un iPad mini quand on peut avoir un iPad Air qui est légèrement plus grand puis qui a toutes les mêmes fonctionnalités, je pense. Est-ce qu'il supporte l'Apple Pencil Pro?
Oui.
Je pense, hein. Ouais, c'est ça.
Il y a une puce M1 et des choses comme ça. Donc.
Ouais, donc voilà, mes enfants, pour leurs études, ils ont chacun un iPad Air et puis l'application pour écrire dessus. Donc j'oublie le nom maintenant, mais ça me reviendra. Et puis voilà, ils prennent toutes leurs notes là-dessus, puis ça marche très bien. Donc, ouais, un peu plus cher, c'est sûr, mais je pense que c'est le meilleur modèle dans la gamme, là, c'est le iPad Air 11 pouces, et puis voilà, ça couvre 99,9% de vos besoins. L'iPad mini est un peu plus petit, un petit peu moins cher, pas tant que ça, hein. Il y avait peut-être $100 moins cher, ou $150 moins cher, pas plus. Donc, c'est vraiment si vous voulez une petite tablette qui tient presque dans votre main, et puis vous pouvez prendre des notes dessus, c'est ouais. Sûr, pour ça, c'est bien. Bah voilà, je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter, on a fait un peu le tour, c'était pas vraiment une annonce super excitante.
On espère que d'ici le prochain épisode, ils vont annoncer des nouveaux Mac, là, on commence à avoir hâte.
Ouais, c'est vrai, là, on arrive fin octobre et on n'a rien entendu, donc ouais, il faudrait que ça arrive, là, je pense que d'ici le prochain épisode, il y aura peut-être eu des annonces, là, ou au moins l'annonce d'un événement. voilà, je pense qu'on en a fini avec l'iPad mini. Si vous voulez, je sais pas, nous dire qu'on a oublié quelque chose ou que vous pouvez nous donner un exemple d'utilisation d'un iPad mini dans votre cas, faites-le nous savoir. N'hésitez pas à nous écrire, on vous donnera toutes les informations à la fin de l'épisode. On va parler maintenant d'un petit utilitaire, je pense, une petite application intéressante qui remplit un certain besoin, je pense. Et j'aime bien le nom de l'application, elle s'appelle Croissant. Donc c'est un petit peu à la mode de donner des noms de mets, de nourriture. Je pense que si on cherche un petit peu, on va retrouver d'autres exemples d'applications comme ça, avec des noms de pâtisserie ou des choses comme ça. Mais voilà, ça s'appelle Croissant. Et alors je sais pas pourquoi ils ont choisi Croissant, il n'y a pas trop de
cross-posting, c'est pour faire du...
c'est peut-être ça, tu crois,
pour croiser tes messages.
Ouais, ok, donc voilà, donc comme tu viens de le dire, c'est pour pouvoir publier des messages à la fois sur Mastodon, Blue Sky et Threads.
Oui,
donc voilà,
pas Twitter.
Et pas X. X n'est pas dans la liste, mais bon, ouais, c'est ça. Pas grave, mais voilà, c'est pour ceux qui ont quand même du mal là, qui se sont permis de quitter Twitter et qui ont besoin d'utiliser plusieurs réseaux sociaux, parce qu'un n'est pas assez. Alors, Blue Sky, c'est le créateur, le fondateur de Twitter qui a créé Blue Sky. Je pense que Blue Sky, peut-être pas super populaire, mais il y a quand même un bon nombre de personnes là-dessus. Et je pense que ça revient plus dans le style qu'était Twitter, si je comprends bien. J'ai pas essayé, mais je pense que c'est un peu ça. Threads, c'est nos amis de Meta qui font ça, donc voilà, si vous êtes content avec ce que Meta fait ou que vous êtes sur Instagram, Threads s'intègre très bien là-dedans. Et puis ils ont sauté sur l'occasion là, quand Elon Musk a racheté Twitter et que les choses sont un petit peu parties en vrille de ce côté-là, il y a beaucoup de monde qui se sont réfugiés sur Threads, et Meta en a profité, a sauté sur l'occasion pour développer leur application, qui est pas mal apparemment, mais bon, c'est Meta, quoi, donc c'est à vous de décider si ça vous va de confier vos informations à Meta. Et bien sûr, on peut écrire sur Mastodon, donc c'est ça qui nous intéresse le plus. Et voilà, l'appli permet de faire tout ça en même temps. Je pense qu'on ne peut que poster des messages. Hein. Je pense pas qu'on puisse... Voilà, on peut pas vraiment consulter vos fils de messages sur les trois réseaux en même temps dans une application unifiée. Peut-être ça viendra dans une version ultérieure, mais je pense que c'est pas évident à faire. Mais là, ça permet donc de pouvoir poster des petits messages sur les trois réseaux en même temps. Donc si c'est un problème que vous avez, Croissant va être l'application idéale pour vous. Et bah moi, je voulais en parler parce que c'est Aaron Veh, V-E-G-H, quelqu'un que je connais de Toronto, que j'avais rencontré quand j'allais à Coco Heads à Toronto, à l'époque où j'habitais à Toronto. Et puis Philippe, tu l'as connu aussi parce qu'il est venu à ta conférence, c'est ça?
Oui, il est venu à NS North. Hein. NS North.
Donc, très sympa comme gars, très impliqué dans la communauté de développement. Je pense qu'il est développeur indépendant. Il était consultant, je pense, à l'époque. Et puis là, il est passé en tant que développeur indépendant. Et il s'est associé avec Ben McCarthy. Tu connais Ben ou pas?
Non, je ne connais pas Ben.
Pour développer l'application... Je ne sais pas si c'est un développeur ou un designer, Ben. C'est peut-être... Mais il fait d'autres applications comme Obscura, l'application d'appareil photo pour iPhone, hein, qui est très jolie. Donc, ouais. Donc voilà, on salue Aaron et Ben au passage. Je ne suis pas sûr qu'ils nous écoutent, mais voilà, c'est sympa cette application.
C'est quand même du contenu canadien. Là.
Ouais, ça fait, il faut aider un petit peu nos compatriotes.
Mais alors, c'est clair que si vous voulez mettre un message sur plusieurs réseaux sociaux à la fois, ça peut être assez embêtant puis des choses comme ça. Moi, j'ai décidé de juste laisser tomber tous les réseaux sociaux puis de me concentrer sur un. C'est pas ce que tout le monde fait. Il y a des gens qui veulent vraiment avoir des présences sur les différents réseaux parce que peut-être qu'il y a des auditoires différents. Des fois, Threads, comme c'est Meta, des fois, il y a de la famille qui est là-dessus, par exemple, là, ou des gens que vous connaissez, mais qui seront jamais sur, Mastodon parce que c'est trop technique ou trop techno, des choses comme ça. Mais vous voulez Mastodon parce que vous avez d'autres amis qui sont sur Mastodon, puis des choses comme ça. Puis Blue Sky, ben, pas jusqu'à longtemps, il y a pas si longtemps, c'était encore un peu fermé, là. On pouvait pas s'inscrire, mais maintenant, ça a l'air qu'on peut s'inscrire. Donc,
Ouais. Donc, c'est une application avec achat intégré. Donc, vous pouvez l'essayer.
Oui, en fait, vous pouvez l'essayer. Les achats intégrés, j'ai trouvé ça intéressant. C'est vous pouvez mettre des messages sur un réseau social gratuitement. C'est quand vous voulez rajouter les deux autres que vous devez payer un abonnement.
Okay.
Donc, ça vous permet de vraiment tester l'application puis de voir si la façon dont il envoie ses messages, c'est bon pour vous puis des choses comme ça. Puis, si vous voulez juste mettre des messages sur un seul réseau social, ben, pourquoi pas, vous pouvez l'utiliser directement si c'est plus facile à faire que votre disons l'application de Meta qui est pas si extraordinaire que ça là, pour poster là, ça peut être une alternative intéressante.
Bah ouais, et puis le design a l'air très bien léché là, très épuré, très joli, donc voilà, à essayer. Donc si vous allez sur l'App Store et vous cherchez croissant, comme ça se prononce, croissant, trait d'union, cross-posting, parce que peut-être si vous tapez croissant, vous allez trouver, je vais faire le test en direct, vous allez trouver 50 applications qui n'ont rien à voir avec cette application-là, voilà, des croissants, le croissant coffee bistro, croissant et coffee, donc non, vous ne trompez pas, c'est l'application, elle apparaît en premier, j'ai l'impression, donc c'est croissant, trait d'union, cross-posting, ça c'est en anglais, alors je ne sais pas sur l'App Store français, vous verrez peut-être quelque chose de différent, je ne suis pas sûr. Mais voilà, il y a un petit icône de croissant qui est très mignon. Donc voilà, on voulait en parler. Donc voilà, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Maintenant, on va parler de... C'est quoi, un kit ou c'est une classe peut-être projet.
Un petit framework.
C'est un petit framework, je pense. Hein. Il y a peut-être plusieurs classes là-dedans, mais c'est un framework pour UIKit qui remplace UI Collection View peut-être
que vous utiliserez au lieu d'utiliser UI Collection View.
Voilà.
À l'interne, c'est UI Collection View. Pour ceux qui sont des programmeurs des vieux de la vieille, là, savent que c'est la structure à utiliser, la classe à utiliser pour présenter des données de façon sous forme de liste ou de tableau. Que ce soit des images, du texte, n'importe quoi. Là, ce que vous regardez sur votre écran, généralement, ce serait un UI Collection View. C'est vraiment le nec plus ultra en termes de performance, en termes voyons. Que vous pouvez l'adapter à vos besoins, des choses comme ça, ça fait vraiment tout, UI Collection View. Le problème, c'est que, comme le nom le dit, UI Collection View, c'est du UI Kit. Donc, c'est une classe qui n'est pas du Swift UI et qui est aussi, qui a tellement de possibilités que et qui a quand même un certain âge là, qui il y a des choses qui sont greffées dessus avec le temps, que il y a plusieurs compagnies ou individus qui ont créé des classes pour emballer un UI Collection View pour que votre code soit un petit peu moins rébarbatif. Par exemple, comme c'est du UI Kit, c'est tout basé sur des méthodes déléguées, hein, les fameux delegates, là, pour faire les modifications nécessaires ou adapter des choses. Il faut que vous implémentiez différents délégués. Et ces délégués-là changent avec les versions de iOS que vous utilisez. Il y en a qui deviennent inactifs, il y a des nouveaux qui apparaissent, etc. C'est un peu barbant. Des fois, on va avoir juste une librairie ou un framework qui emballe tout ça pour que notre code à nous soit propre et que toute l'usine à gaz de UI Collection View derrière fasse tout le travail sans qu'on ait trop à le voir. Et ce que je trouvais intéressant de Reactive Collection Kit, c'est que c'est une vision un peu plus moderne. Et si vous utilisez SwiftUI, bien vous connaissez très bien les listes. Alors, SwiftUI, tout est déclaratif. On fait des listes avec des éléments qui sont dedans. On fait des boucles for sur les différents éléments de la liste. Dès qu'il y a un changement à la liste, dès qu'il y a un changement à la source de la liste, la liste est modifiée à l'écran. Il y a des éléments qui peuvent être insérés, effacés, etc. Il y a toutes sortes de choses qui font par défaut. Mais UI Collection View en fait encore plus. Parce que SwiftUI ne fait pas tout. Entre autres, pour les listes bidimensionnelles, c'est probablement mieux de passer avec un UI Collection View que d'utiliser les différents trucs qui existent dans SwiftUI, pour le moment. Hein, on s'entend que SwiftUI est en évolution constante, mais évolution constante veut aussi dire nouveaux bugs de temps en temps. Demandez-moi pas comment je sais qu'il y a toutes sortes de bugs dans SwiftUI. Bref, c'est une façon moderne de créer des tableaux de choses à présenter avec des sources de données. Vous voulez aussi avoir une bonne performance parce que si vous avez 10 000 photos à présenter, vous voulez pas charger les 10 000 photos d'un coup, vous voulez charger les 10 ou les 20 premières pour pouvoir avoir une expérience un peu plus facile et un peu plus... lisse, disons, ou léché, et puis que votre système ne prenne pas des tonnes et des tonnes de mémoire et que le iOS vous tue votre application parce que vous prenez trop de mémoire. Bon, il y a toutes sortes de choses qui sont faites dans UI Collection View que pour vous et dans SwiftUI pour vous que vous ne voulez pas gérer vous-même. Il y a d'autres ancêtres de ça. Le plus connu, c'est probablement IG List Kit qui est fait par Instagram. On parlait de Meta tantôt là. Alors Instagram c'est maintenant Meta aussi, mais ils ont quand même des bons frameworks qui sont utilisés dans leurs applications, et si ça marche dans leur application, et eux ils ont des gens avec des millions voire des centaines de millions d'utilisateurs là, ça va marcher pour votre application à vous là, c'est sûr. Mais c'est encore un peu comme c'est des frameworks qui sont assez anciens, un peu comme UI Collection View aussi. Alors ça trahit leur âge. Ils n'ont pas des interfaces de programmation qui sont très modernes, qui sont très déclaratives et des choses comme ça. Alors Jesse Squires a décidé qu'il allait créer une fois pour toutes un truc qui s'appelle Reactive Collection Kit, qui vous permet de faire des choses déclarer comme en SwiftUI, mais en utilisant UI Collection View.
Voilà, donc le but du développeur, hein, c'est ça, c'est de se rapprocher de la puissance de UI Collection View, qui est très complet, on peut faire beaucoup de choses avec, que le struct grid de SwiftUI ne fait pas encore. Hein, c'est bien plus basique. Donc voilà, si vous avez des besoins plus avancés, pour afficher des données sous forme de listes, mais ça peut être des listes plus complexes avec des affichages plus avancés qui vont dans d'autres sens, faire des carrousels, faire des trucs comme ça. Bon, c'est peut-être là qu'il faut regarder. Donc, vous pouvez aller sur GitHub. Le compte, c'est Jesse Squires, donc J-E-S-S-E-S-Q-U-I-R-E-S.
Qui est un développeur Mac et iOS de longue date.
Et voilà, et son projet s'appelle Reactive Collections Kit. Donc voilà, ça utilise un petit peu la méthode réactive, tout ça. Donc si, comme dit Philippe, si vous voulez quelque chose d'un peu plus moderne et d'un peu plus puissant que Grid, et ben voilà, jetez un coup d'œil là-dessus. ça dit que c'est complètement... Il y a des tests unitaires, il n'y a pas de partie de dépendance, de partie tierce ou de choses comme ça. Donc, ça a l'air d'être un framework qui est plutôt comment dire, bien supporté, puis qui posera peut-être moins de problèmes si vous l'intégrez dans votre application. Voilà, c'est ce que le développeur s'engage à faire. Donc,
voilà. Oui, c'est ça.
Mais voilà, testez, regardez comment ça marche. Il dit que c'est prêt pour la production, mais qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Il donne la liste sur le lien sur la liste des fonctionnalités, des problèmes du framework dans GitHub. Donc voilà, jetez un coup d'œil là-dedans, puis voilà, regardez si c'est quelque chose qui peut vous intéresser dans votre propre application. On va passer sur un autre framework qui a l'air sympa, il y a un petit icône rigolo, ça s'appelle Tiny Storage. Alors, qu'est-ce que c'est Tiny Storage? Qu'est-ce qu'on stocke là?
Alors, si vous utilisez programmé pour iOS ou pour macOS, vous avez sûrement utilisé User Defaults, qui est la classe par excellence pour stocker des petits bouts d'informations. Par exemple, pas des trucs comme des noms d'usagers, des mots de passe, mais plutôt comme des préférences, de savoir telle fenêtre est à tel endroit, ou la couleur de base de du fond de votre application, les petits trucs comme ça. Là. User Default, c'est vraiment bien pour ça. Et en plus de ça, User Default, ça avait l'avantage que si vous avez une extension, vous avez un widget ou des choses comme ça, vous pouvez partager les données facilement entre les deux. Comme ça, disons, votre widget sur votre écran d'accueil va avoir la même couleur de fond que dans votre application quand vous laissez l'utilisateur choisir ce genre de truc-là. Donc, User Default, c'est très bien. Un développeur qu'on connaît bien qui s'appelle Kristen Seelig, qui développait Apollo à l'époque, là, le client Reddit qui était très, très bien accepté de tout le monde et qui était très bien fait. C'est un Canadien d'ailleurs, il vit à Halifax, donc encore du contenu canadien, on est fort là-dessus aujourd'hui. Il a découvert que dans certains cas, User Defaults pouvait ne pas retourner de valeur. Par exemple, vous voulez savoir, c'est sûr que pour la couleur, c'est pas très important si ça retourne pas de valeur, mais peut-être qu'il y a, vous avez une information qui est un petit peu plus importante, comme par exemple, je sais pas moi, dans votre... vous avez un nom d'usager à envoyer ou quelque chose comme ça, ou un token quelconque. C'est clair que des fois, on veut vouloir les mettre dans le trousseau d'accès, là, dans le keychain, mais vous pouvez aussi stocker des informations non qui ne sont pas super importantes. Par exemple, l'endroit, si vous avez une application de météo, l'endroit pour lequel vous voulez charger la météo pour la présenter dans votre widget, par exemple. C'est le genre de truc que vous mettriez dans User Defaults. Mais ça peut arriver que User Defaults vous ne retourne aucune valeur. Et c'est rare, mais il y a des cas documentés, comme par exemple, si votre application fonctionne en arrière-plan et est réveillée par le système pour aller faire une mise à jour parce que vous avez demandé au système de vous réveiller de façon infréquente pour faire des mises à jour, par exemple pour aller chercher la nouvelle météo ou des choses comme ça, mais que vous avez mis l'information de la ville pour laquelle vous voulez la météo dans User Defaults et que User Defaults vous retourne nul, ben là vous allez dire, ben vous allez prendre une ville par défaut ou je sais pas moi, si votre ville par défaut c'est Montréal ou c'est Cupertino comme il y a des gens ou des choses comme ça, ben là l'utilisateur, après ça quand il va regarder votre widget, il va avoir la météo pour la ville, une ville par défaut qui est pas celle qu'il a choisie. Et ça lui a pris du temps à comprendre pourquoi ça se passait comme ça, et il a écrit même un petit article de blog pour l'expliquer. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'il a décidé de créer une petite classe qui s'appelle Tiny Storage, qui fait la même chose que User Defaults en pratique, là. On s'entend, c'est le même genre d'appel et de pour stocker des données non structurées, là. Et mais qui n'a pas ces problèmes-là, qui va toujours vous retourner une valeur si elle existe, même si votre application est dans un état différent selon le système ou des choses comme ça. C'est pas un chargement partiel ou des choses comme ça qui peut arriver quand vous êtes un widget ou des choses comme ça. Donc, il ne souffre pas d'aucun de ces problèmes-là. Et il a juste écrit et il l'a mis en code sourcier pour vous dire « allez-y pour l'utiliser ». Donc, si vous vous sentez concerné par ces choses-là de User Defaults, et je vous conseille d'aller lire l'article de blog pour avoir tous les détails de ces cas particuliers. Tiny Storage règle tout ça. Et c'est une petite classe toute simple. C'est juste un fichier. C'est facile à lire. Vous auriez probablement pu l'écrire vous-même, mais là, Christian l'a écrit pour vous.
Ouais. Et donc, ça store des fichiers de playlist.
Oui. En fait, c'est n'importe quelle donnée qui peut être codable. Donc, généralement, on codable. Parle des types de base, là, des chaînes de caractères de type string, des entiers, des valeurs booléennes, etc. Mais ça ne peut pas faire des collections hétérogènes. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une collection dans laquelle il y a à la fois des strings et des entiers, par exemple. Il faudrait vous faire un petit struct qui contient le string et l'entier, et là, et qui lui est codable, et ça va marcher. Mais il ne faut pas avoir un string à côté d'un entier dans la chaîne. C'est une petite limite, mais c'est pas vraiment grave.
Ouais, donc sur GitHub, ça montre un petit peu comment utiliser tout ça. C'est vrai que c'est plutôt simple, hein. Donc on crée son tiny storage, on lui dit de quel groupe. App Group ID, il va faire partie.
Oui, pour avoir les partages, là, c'est ça.
Les partages entre des applications là, du main developer. Et puis, dans quel répertoire installer tout ça, sauver les données. Après, il faut créer un petit enum avec les différents types de données qu'on va mettre dans le Tiny Storage. Et ensuite, voilà, c'est juste deux méthodes, retrieve and store. Donc, voilà. Retrieve, vous trouvez la valeur qui correspond à l'énum que vous avez créé précédemment. Donc là, ça donne un petit exemple. Aime la crème glacée, animal de compagnie, a battu le premier niveau d'un jeu, par exemple. Donc ça pourrait être trois types de données que vous stockez là-dedans. Et voilà, la méthode retrieve, vous dites, voilà, c'est... Je sais pas, je vais avoir quel est votre animal de compagnie. Donc, on vous donne la clé de l'énum qui est animal de compagnie. Puis, vous allez retrouver l'objet qui correspond à ça. Donc,
et vous voyez, très simple. Comme tu dis, c'est basé sur des énums. Donc, vous avez l'autocomplétion et le compilateur vous dit si vous vous trompez ou non. Alors qu'avec user default, c'est basé sur des clés qui sont des chaînes de caractères. Alors, vous savez pas ce genre de sécurité-là. C'est plus moderne, un peu.
C'est ça. C'est plus moderne, et puis, comme tu le disais, c'est plus... comment dire, on peut compter dessus. Hein. User default, il y a des cas où ça ne marche pas toujours, en fonction de si l'iPhone est... Dans quel état est votre iPhone, par exemple, s'il est bloqué, pas bloqué Donc, en fonction de l'état de l'application aussi dans l'iPhone, il y a des choses qui vont marcher ou pas marcher. Et c'est problématique si votre application a besoin de données comme ça qui étaient dans les user default. Donc, voilà, n'allez pas vous casser la tête à essayer de comprendre comment marche tout ça. Vous pouvez utiliser Tiny Storage et puis là, vous êtes sûr que quel que soit l'état de votre application, les données seront toujours disponibles au bon moment. Donc, si vous allez sur GitHub, encore une fois, le développeur, comme tu as dit, c'est Christian Selig. Donc, Christian, comme ça se prononce, Selig, S-E-L-I-G. Et puis, le projet, c'est Tiny Storage. Et voilà, c'est une petite classe. Ouais, c'est un seul fichier Swift qui fait à peu près moins de 800 lignes. Donc, c'est pas un énorme... Comme tu disais, c'est quelque chose que vous auriez pu écrire vous-même. Bon, si c'est écrit par un développeur talentueux comme Christian, on peut lui faire confiance. Et voilà. Donc, au lieu de dupliquer du code, eh ben, des fois, c'est mieux de participer peut-être à du code qui existe. Donc, si vous voulez l'améliorer, vous trouvez des problèmes, n'hésitez pas à dupliquer, à faire, comment dire... un pull request sur Tiny Storage. Je vois qu'il y en a un qui est en attente. Use concurrent dispatch queue. Alors, je sais pas. Il y a des gens qui regardent là, peut-être il y a des petits soucis quand ça doit marcher en multitâche. Voilà. Tiny Storage, sympathique. Maintenant, on va parler d'un outil. C'est plus vraiment un framework, mais un outil qu'on aime bien ici. On en a utilisé plusieurs comme ça. C'est des outils pour générer des sites web statiques. et celui-là est écrit en Swift. Donc, on a parlé de notre site pour le blog. Donc,
toi, tu as fait la mise à jour avec Ignite, je pense. Hein?
Ouais, donc Ignite, c'est la dernière version. Et puis avant, on utilisait... c'est pas Jekyll, mais c'est l'autre. Comment il s'appelait déjà ?
Hugo.
Donc voilà, c'était Hugo, un générateur de sites statiques écrit en Go. Et Ignite écrit en Swift et Toucan écrit en Swift aussi. Donc j'ai pas moi d'intérêt de changer quoi que ce soit. Je pense que Ignite fonctionne bien, j'en suis content. Mais si vous voulez regarder quelque chose de différent, ben vous pouvez aller jeter un coup d'œil à Toucan, qui est un peu le même style. Hein. Vous partez d'un contenu écrit en Markdown, et puis Toucan va générer votre site à partir de vos fichiers, de votre contenu. Je pense que peut-être Ignite est un peu plus complet, a plus de fonctionnalités, mais bon. À voir, donc si vous voulez faire quelque chose de relativement simple, peut-être que Toucan c'est peut-être plus petit, plus simple à utiliser que Ignite, je sais pas trop. J'ai pas trop regardé le code pour voir ce que ça fait de plus ou de moins. J'avoue que il y a pas énormément de documentation pour l'instant.
Non, ils sont encore en version alpha.
Ouais, donc c'est un petit peu tôt.
On en parle un peu d'avance, mais ce que j'avais trouvé bien, c'est qu'ils ont publié comment faire un site minimaliste. Puis c'est souvent ça quand on peut explorer tous les morceaux d'un site web et puis pour bien les comprendre, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça remplace pas la documentation, mais ça permet à quelqu'un qui est le moindrement adepte en développement d'aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe et de comprendre assez rapidement comment ça fonctionne.
Ouais, donc c'est intéressant. C'est pas comme, je pense que Ignite avait été développé quasiment complètement offline, hein, sans qu'on le sache. Et puis ça a été publié quand tout était prêt pour la version 1.0. Alors que là, Toucan, c'est comme tu dis, c'est en version alpha. Donc vous pouvez voir un petit peu l'évolution du développement. Peut-être y participer si ça vous intéresse. Mais voilà, de voir comment fonctionnent les choses. Donc, le code est peut-être un peu plus simple à comprendre pour l'instant, plutôt que quelque chose de plus gros qui a déjà été développé pendant plusieurs mois. Voilà, je suis d'accord avec toi, ça peut être intéressant de regarder comment ça fonctionne, et puis, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais, comme je le disais, je suis peut-être pas sûr que... encore j'en sais rien, que toutes les fonctionnalités soient là ou pas. Peut-être que s'il y a plein de fonctionnalités, là je vois qu'il y a Moustache là, qui est un système pour
faire des pochoirs, ouais, c'est ça.
Faire des pochoirs HTML là, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc voilà, je tiens un coup d'œil là-dessus. Si vous allez encore sur GitHub, le compte, pardon, s'appelle Toucan Sites.
Oui.
Toucan Sites. Et le projet, il y a plusieurs choses. Il y a le projet Toucan qui est l'application. Donc, quand vous faites un git clone, vous faites un make install. Ensuite, ça vous crée une commande, un exécutable qui s'appelle Toucan, T-O-U-C-A-N. Et avec ça, vous pouvez générer votre site statique à partir de vos sources. Et ensuite, il y a une commande qui s'appelle Toucan Watch qui permet de régénérer le source si vous changez des fichiers dans vos sources.
Ça, c'est classique, ça. Ouais.
Voilà. Et puis, bien sûr, un Toucan Serve qui va démarrer un petit site HTTP, là, et puis vous pouvez consulter le site statique que vous avez créé. Donc, intéressant. Il y a aussi un site d'exemple. Donc, il y a un thème minimal, un exemple minimal. Donc,
c'est encore très minimal.
Tout est minimal. Je regarde, il y a Home Assets, est-ce que index.md. Ouais, il y a quelques petites pages là-dedans, mais j'imagine que c'est pendant le développement là que on n'a pas besoin d'avoir énormément de choses pour l'instant. Ouais, je pense que le minéral est très minimal. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas vraiment d'article. Il y a juste un...
C'est ça.
Il y a une page à propos. Puis voilà, c'est un peu ça. Mais voilà. Ça peut être un bon départ. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, de commencer par quelque chose de simple, c'est toujours une bonne idée. Bon, voilà, ça complète notre épisode aujourd'hui. Comme j'ai dit au début de l'émission, si vous voulez nous partager quelque chose, je parlais de l'iPad mini, quel est un bon cas d'exemple, un bon exemple d'utilisation, pardon, de l'iPad mini, faites-le nous savoir. Donc, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Je parlais aussi de notre site web, donc cacaocast.com. Vous verrez tous les épisodes à partir du tout premier. Vous pouvez les voir classés par année. Ça, c'est une petite amélioration par rapport à l'ancien site qui, lui, n'offrait pas vraiment de navigation un peu avancée. Donc, si vous vouliez aller à la page numéro 1, c'était un peu plus compliqué là. Il fallait aller de page en page jusqu'à l'épisode numéro 1. Là, maintenant, vous pouvez directement aller à l'année, la première année où on a commencé à produire les podcasts CacaoCast, et vous tomberez sur le numéro 1 si ça vous intéresse d'écouter ça. Philippe, si on veut savoir quand sont tes sorties en kayak, par exemple, où doit-on aller?
Oui, ou savoir si j'ai craqué pour une Apple Watch, on en a parlé.
Ouais.
C'est ça. Pour moi, c'est sur mastodon.social, Philippe C à mastodon.social.
Si on n'en a pas parlé, c'est que tu n'as pas encore craqué. Donc, garde le suspense jusqu'au bout. Puis le jour où tu auras craqué, on en parlera tout de suite.
Mais je peux vous dire que ça ne sera probablement pas cette année, parce que là, je me suis payé une petite folie dans un sens. Je vais aller faire du ski au Colorado au mois de janvier.
Ah, sympathique ça.
Oui, c'est ça. Alors, ça coûte quand même des bidous aller là. Alors, j'ai décidé de prendre l'argent que j'aurais mis sur un Apple Watch et d'en mettre une petite partie sur un voyage de ski. C'est un voyage de ski qui est organisé par Curtis Herbert, qui faisait la conférence Coco with Love à Philadelphie, et qui est aussi l'auteur de Slopes, un programme iOS et WatchOS pour vous, si vous êtes amateur de ski alpin, ou de planche à neige, des choses comme ça dans les montagnes. Alors il suit sa passion, dans le sens de, il était à Philadelphie, il n'y a pas des grosses montagnes en Pennsylvanie, et il a carrément déménagé au Colorado pour pouvoir continuer à travailler sur son application et utiliser son application. Je le salue bien bas, et j'ai bien hâte de le revoir, parce que je suis déjà allé dans ces petites fins de semaine de ski qu'il organisait depuis quelques années déjà, pendant que c'était au Vermont, parce que le Vermont, c'est pas très loin d'ici, on peut s'y rendre en voiture, mais le Colorado, je peux pas vraiment m'y rendre en voiture, j'ai pas vraiment envie de faire deux jours de route en hiver pour me rendre là. Je vais y aller en avion, mais ça augmente un peu le coût, mais j'ai jamais fait de ski dans les montagnes rocheuses, alors ça va être une première pour moi, j'ai bien hâte de voir.
Ouais, t'es bien chanceux, ça va être très sympa. Alors, c'est juste que du ski, ou c'est comme une mini conférence là? Comment ça se passe?
Alors,
ou tu fais juste en ami avec lui, ou vous serez plusieurs?
On va être une quinzaine.
Okay.
Donc, on loue un gros condo là, et puis on s'installe. Ça va être entre 15 et 20 personnes. Et puis l'idée, c'est que c'est tous des gens qui, les gens qui s'inscrivent là. C'est des gens qui ont des attraits un peu comme les auditeurs de notre podcast, des gens qui aiment ce genre de technologie-là, les technologies Apple, des choses comme ça. Et le soir, ça va probablement juste parler de... on sort son ordi, on monte des trucs, on monte les trucs sur lesquels on travaille, ou les trucs qui nous amusent, des choses comme ça, et on discute de toutes sortes de choses, ou pas, là, tu sais, mais c'est ce genre de trucs-là. Mais c'est pas très long, hein, c'est juste, on fait deux journées de ski complètes, et un soir avant, et on part le quatrième jour. Alors, ça sera pas vraiment, vraiment long.
OK. Bon, ben, peut-être que tu nous en parleras à ton retour.
Je pense qu'au moment où vous écoutez ce podcast, c'est déjà plein. Mais si le site web vous intéresse, ça s'appelle firesidecoco.com.
Ah, OK.
Ouais. On pourrait le mettre dans les notes de l'émission.
Firesidecoco.com. Je regarde en même temps, parce que je n'étais pas au courant. Ah ouais, ça a l'air sympa. On voit des photos des années précédentes, j'imagine. Cool. Ah ok, je vois un petit peu les prix, c'est pour ça que ouais, peut-être ta montre va y passer là.
Ouais, c'est ça.
ça inclut pas le vol, tout ça, donc...
C'est ça.
Ok, mais bon, ça vaut le coup, hein, c'est du bon ski là-bas, donc je pense que...
Mais j'espère, je suis jamais allé, alors j'ai hâte de voir. Honnêtement, la plus grosse montagne où j'étais allé, c'est Killington au Vermont, et c'était avec Curtis justement, qui était une assez grosse montagne, là. Mais là, ça, c'est des montagnes où c'est juste des télécabines, là. Alors, c'est pas la même chose.
J'ai hâte de voir.
En fait, si vous regardez les photos des années précédentes, vous pouvez me voir sur une des photos.
Ah, ok.
Au milieu, je pense.
Au Vermont. Ah oui, je te vois. Ouais, t'es au milieu.
Ouais.
Sympathique.
Ouais.
Ok. Bon, il faudrait que je m'inscrive pour 2026, alors avant qu'il n'y ait plus de place. Moi, j'aimerais bien aussi, j'aime bien le ski, donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ok, donc si vous voulez avoir de nos nouvelles, vous pouvez aller aussi sur mastodon.world cacaocast/, je sais pas quoi, @cacaocast. C'est un peu plus compliqué sur Mastodon là, de donner les noms des comptes, mais bon, c'est moi je publie pas grand chose, c'est juste pour voilà, vous mettre au courant qu'un nouvel épisode est disponible en général. Ben, je pense qu'on a fait le tour, comme on le disait un peu plus tôt, on s'attend à de nouveaux Mac, donc ça ne devrait pas tarder, on arrive bientôt à la fin du mois d'octobre, donc Apple fait en général un événement dans l'automne, là. Donc si c'est pas fin octobre, début novembre peut-être, et voir des nouveaux MacBook Pro, je pense, avec des M4 dedans. Moi j'ai déjà dit que j'aimerais bien voir peut-être un iMac un peu plus grand, pas juste avec un M4 dedans, mais avec un écran un peu plus grand, ça serait sympa. Et il y a toujours cette rumeur de Mac Mini, un nouveau design là, de Mac Mini aussi, donc il y a pas mal de choses là qui devraient... arriver bientôt, donc on a bien hâte et on en reparlera bien sûr lors de notre prochain épisode. Voilà, bon, je te remercie Philippe.
Moi aussi Philippe.
On se reparle une prochaine fois.
Salut.
Bye bye.